sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède. J'hésite à imposer le nom.
Désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état?
La mélancolie.
Et l'esprit de Noël, ça vous dit quelque chose?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission spéciale Remède à la mélancolie de Noël, imaginée avec Laure Grand-Besançon et avec la collaboration de Marie Blanc, réalisée par Étienne Bertin et mise en musique par Muriel Pérez. J'en profite pour remercier chaleureusement la bibliothécaire de Radio France, Annelise Signoret, pour son concours aujourd'hui à la technique, Nicolas Cazot et Stéphane Beaujat. Chers auditeurs, je ne sais pas si vous êtes seul, en famille, avec une compagnie choisie ou subie, si pour vous le 24 décembre signifie quelque chose, s'il n'est qu'une date parmi d'autres ou un événement fatidique, si les ambiances Ingmar Bergman vous sont étrangères ou familières. Mais ce que je n'ignore pas, c'est que nous avons prévu pour vous et jusqu'à minuit une multitude de présents sonores. Pour cela, je me suis entourée de 4 apothicaires de l'âme ayant la fantaisie en commun. Chacun a apporté des remèdes de circonstance. Ce soir, nous passerons 2 heures avec le drame dramaturge, metteur en scène, comédien, réalisateur et directeur du Théâtre du Rond-Point Jean-Michel Ribes, avec la chanteuse et compositrice onirique Barbara Carlotti, le romancier, dessinateur et auteur de bande dessinée Fabrice Caro alias Fab Caro, et le saxophoniste, chanteur et musicien cosmique Thomas de Pourquerie. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
La question est prévisible, mais chacun vit cette période différemment, alors je la pose. La période des fêtes vous rend-elle mélancolique ? Barbara Carlotti.
Au contraire. En fait, je pense que j'ai, avec le temps, je m'isole en fait, pendant cette période. Je fais juste ce qu'il faut avec la famille. Mais après, je m'isole pendant une semaine et j'en profite pour lire tout ce que je n'ai pas pu lire, écouter tout ce que je n'ai pas pu écouter, être seule et écrire. Et c'est un temps particulièrement doux. Ça me rappelle un peu le moment où j'attendais... petite le Père Noël et je regardais par la fenêtre comme ça. C'est un temps d'attente comme ça.
Agréable.
Ah, plutôt agréable, ouais. Peu scintillant.
Scintillant, c'est joli. Jean-Michel Ribes, comment vous les vivez ces périodes de fête?
Moi, j'aime pas du tout et je suis extrêmement mélancolique, mais d'une certaine manière, je densifie tout ça. Vous savez, on dit que la grande comédie, le grand rire, c'est du malheur inversé. Donc, il faut avoir du malheur pour pouvoir après l'inverser et en rigoler. Donc, je fais une charge, je remplis les caisses pour après pouvoir en rire.
Et vous y arrivez? Vous avez suffisamment de matériel pour les remplir, ces caisses?
Oui, là, je dois dire que oui. Oui, je trouve que Noël, c'est quelque chose qui est une espèce de vitrine qui, par ses lumières et par ses chants et par sa joie un peu factice, montre à quel point il y a de l'ombre partout.
Vous dites ça d'un air, j'allais dire résigné, mais pas vraiment, entre résigné et neutre.
Entre résigné et neutre, ça s'appelle Erzneutre.
Oui,
hein,
donc j'ai un ça dans Erzneutre.
J'ai un Erzneutre, mais non, je dis ça avec un air un peu détaché, parce que on est obligé de se détacher, comme toutes les choses qui font un peu souffrir, on est obligé de se détacher pour mieux les regarder, peut-être après pour mieux, voilà, en rire, parce que c'est ça la résistance, c'est de rire.
C'est toujours d'ailleurs cette prise de distance salutaire qui va revenir dans tous vos remèdes abordés ce soir, Jean-Michel Ribes, on va y revenir. Thomas de Pourquerie.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Comment ça va?
Mais ça va et vous? Comment vous vous sentez à Noël?
À Noël, je me sens généralement très bien parce que je vais voir ma famille que j'adore, qui habite dans les montagnes. Et c'est le seul moment où je les vois. Donc voilà, je suis très content d'y aller. Après, quand je reviens et que je passe la semaine, comme disait Barbara, c'est un petit peu plus triste. Ouais, je suis un petit peu mélancolique. Moi, c'est plutôt le nouvel an qui me déprime totalement.
Oui, on va y arriver dans pas longtemps.
Bisous.
Oui, bisous. Fabrice Caro.
Ben moi, il y a deux parties distinctes, en fait. Il y a le Noël avec ma famille et ma petite tribu à moi, que j'adore. On a un petit rituel avec mes filles, tout ça. Et ça, j'aime beaucoup. Mais après, il y a la tournée de la famille. Alors ça, pour le coup, moi, ça me déprime un petit peu. Les parents, les beaux-parents. J'espère que mes parents n'écoutent pas. Mais ça, pour le coup, c'est un truc qui me déprime un petit peu. Le passage obligé de la tournée de la famille, avec tous les rituels, les cadeaux, les machins, les trucs, ça, c'est dur. Ouais. Mais au milieu, il y a ce petit îlot, le 24 au soir, avec mes filles. Ça, c'est chouette. Ouais. Moi, j'aime bien.
Oui, autour de la table, j'ai l'impression que beaucoup ont des familles. Je rejoindrais plutôt Jean-Michel Ribes sur les fêtes. Moi, ça me déprime beaucoup et j'essaie de prendre de la distance aussi. Je suis sûre qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui n'ont pas de famille. Parfois, c'est triste et parfois, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi.
Oui, absolument.
Bon, nous sommes entre gens qui savent. J'annonce le sommaire des réjouissances ce soir. On va se préserver du spleen avec les idées consolatoires et pépites que vous avez choisi de transmettre aux auditeurs tous les quatre. Dans quelques instants, nous convoquerons Gérard de Nerval, une invention du nom de Dadaï Lama, Tino Rossi de la danse, des chiens de Noël, Édouard Levé, Jean-Luc Le Ténia, une idiocratie, l'extérieur de soi, un voyage spatial, W.H. Auden, une dinde, une sirène, quelqu'un d'autre que soi, Madonna, Pierre Desproges et Alain Pacadis juste après un morceau à la frivolité réjouissante, quelle histoire de Jeanne Moreau.
Cet homme est là qui me regarde, je m'y accroche par mes gardes. Je n'ai pas su baisser les yeux, il semble en être très heureux. Il prend cela pour un aveu, mes yeux sont noirs, les siens sont bleus. Oh, 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 quelle histoire! Il va croire que je le veux. Oh, 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 comment faire? M'en défaire si je peux. Cet homme est là qui me sourit, il me parle et j'en suis ravie. Je suis le dessin de sa bouche, légèrement sa main me touche. Ce soir je ne suis pas farouche, prise au piège comme une mouche. Oh, 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 quelle histoire! Il va croire que je le veux. Oh, oh, oh. Comment faire, m'en défaire si je peux. Cet homme est là qui prend mon bras, je le suis, je ne sais pourquoi. Nous sommes un peu trop intimes, je vais encore être victime d'une aventure bellissime, cette rencontre est rarissime. Oh, 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 quelle histoire. Il va croire que je le veux. Oh, 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 comment faire? M'en défaire si je peux. Cet homme-là me déshabille. Ce soir, mon corps sent la vanille. Tout simplement, il a dit, viens et vainement, je me retiens. Il fait tout seul à pour son désir a tissé les liens. Oh, 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 quelle histoire! Il va croire que je le veux. Oh, 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 comment faire? M'en défaire si je peux. Cet homme est là à mon réveil. Dehors, il fait déjà soleil. Nous reprenons notre entretien, ce n'est pas un théoricien. Quel est son nom? Je n'en sais rien. Mais je crois qu'il est brésilien. Oh, 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 quelle histoire! Il va croire que je le veux. Oh, 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 comment faire? M'en défaire si je peux.
Remède à la mélancolie de Noël sur France Inter avec Fabrice Caro, Thomas de Pourquerie, Barbara Carlotti et Jean-Michel Ribes. J'ai demandé à chacun d'entre vous, dans le cas où des auditeurs désespérés nous écouteraient, de choisir le texte d'un individu encore plus désespéré. On en fera des lectures ça et là pendant l'émission. Jean-Michel Ribes, c'est à vous d'ouvrir le bal avec un sonnet de 1854 d'une importance incontestable dans le corpus mélancolique. Il s'agit d'El Desdichado de Gérard de Nerval, extrait du recueil Les Chimères. Est-ce que vous voulez bien nous le lire?
Oui, avec un petit avant-propos, je dirais que c'est un des poèmes les plus désespérés qui soit, mais quand il est écrit par un grand poète, je ne sais pas pourquoi, ça redonne peut-être de l'espoir en même temps que du désespoir. Donc ça s'appelle El Desdichado. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le posilipe et la mer d'Italie, la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé et la treille ou le pampre à la rose salie. Suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Biron, mon front est rouge encore du baiser de la reine, j'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène et j'ai deux fois vainqueur traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée.
Merci Jean-Michel Rippe, c'est un texte qu'il faut se réciter sous la douche.
Oui.
Oui.
Sous la douche ou sous Macron, enfin sous des tas, sous des tas d'endroits, on peut se le réciter.
Sous la douche de Macron.
Ou sous la douche de Macron aussi.
Ça, ça dépend.
Oui.
Vous connaissiez tous ce texte autour de la table?
Bien sûr.
Qu'est-ce qui vous évoque? Ah oui, d'accord. Bon, alors, là, je...
Non, mais ça, excusez-moi, ça fait un peu oral du bac, là, ce que vous venez de faire.
C'est vrai?
Bah oui, qu'est-ce que vous évoquez? Vous pouvez me dire en quelques exemples précis
ce que... Alors, moi, il m'évoque un type penché, géographiquement penché. Vous voyez, j'aurais pas mon bac avec une réponse comme ça.
Penché?
Oui, un type comme ça.
Non, vous savez, il y a une très belle photo de Gérard de Nerval, qui est immobile et qui regarde le photographe, qui est Nadar, d'ailleurs. Et ce qui est absolument sublime, c'est que 10 ans avant, c'est un jeune homme mince et romantique, une espèce de dandy qui promenait son homard en laisse aux Tuileries. Et c'est drôle comme il y a une espèce de totale transformation d'un homme qui, là, vraiment, est saisi par la mélancolie.
C'est vrai que les photographies de Nadar sont sublimes. Il y a l'exposition à la BNF, je ne sais pas si elle a toujours cours, mais il faut aller la voir. Je me tourne vers vous, Thomas de Pourquery. Vous avez inventé quelque chose, je crois avec l'aide de Barbara Carlotti, du nom de Dadai Lama. Qu'est-ce
oui,
que c'est
un personnage aux actions assez aléatoires, voilà, qui s'empare de quelques textes, quel qu'il soit. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à me faire lire, et en fait, c'est une recréation, une lecture en diagonale pour s'absenter.
C'est du get-up oral, en fait.
Voilà.
Mais Thomas faisait ça sur Instagram et j'ai vu ça. C'est ça, tu faisais des petites séquences sur Instagram. Et j'ai vu ça et je faisais une chronique littéraire sur Nova avec Richard Guettet et je me suis dit, il a réinventé le cut-up oral. Donc un jour on a travaillé comme ça ensemble à table, au café. Et je lui disais, vas-y. Et donc, je lui donnais plein de textes et il lisait comme ça, il faisait du cut-up improvisé, quoi.
Dans le dada,
il y a un peu voilà, et donc c'était du dada, c'était du surréalisme.
C'est le cadavreski, non?
C'est le cadavreski.
C'est un petit enfant du cadavreski.
C'est ça, voilà, c'est ça. Mais alors bon, c'est très aléatoire.
Après, on imaginait que des groupes entiers de gens feraient ça avec lui et le suivraient quand il irait dans les rues comme ça.
Bien sûr.
Donc c'était tout un mouvement littéraire à réinventer, en fait.
Ça ne veut rien dire, mais c'est voilà.
Mais comme c'est très subjectif, les mots que vous choisissez dans le texte, Thomas de Pourquery, on ne peut pas vous suivre.
Vous pouvez, si vous le souhaitez.
Mais on ne peut pas, il faudrait être dans votre tête pour vous suivre.
Non, je pense que vous êtes en mesure de me suivre, Eva.
D'accord.
Vraiment.
Tant pis pour vous. Eh bien, on va vous entendre donc dans cet exercice du Dadai Lama. Et on vous a donné le début de Voyage au bout de la nuit de Céline. Donc je rappelle donc pour les auditeurs que vous allez lire les
tout
mots de façon aléatoire.
Donc ça a débuté comme ça, sur les bocs, comme un grand changement à cause de la chaleur. J'étais d'une race française et donc il y en avait une. Sur terre, celui qui disait « Vive la patrie » était d'un parfum de genoux. « tout ça », me dis-je. « Oui, je vais voir, c'est ainsi », cria Arthur. J'étais au pas, j'y restais et un navet vient s'emparer de mon cœur.
C'est formidable. Merci beaucoup Thomas de Pourquery.
Je trouve que c'est extra...
Jean-Michel Rippe.
Oui, je trouve que c'est extraordinairement clair et lisible. Ouais. C'est plein de sens. Mais c'est intéressant parce qu'on se dit que tout d'un coup, le voyage au bout de la nuit de Céline, on peut faire 80 livres avec. Il suffit de les remettre dans un autre sens et c'est bien et ça se lit avec autant de plaisir. Si c'est vous qui lisez, évidemment. Mais...
Je vous remercie.
Ou faire une version beaucoup plus courte.
Oui.
Une espèce de folio en 20 pages. Comme ça. Oui. Une espèce de résumé comme ça. Avec...
Bah on a
oui, il y a des acteurs en ce moment qui font.
Jean-Michel Rippe.
Ils jouent tout Shakespeare, l'intégralité de Shakespeare en une demi-heure.
Ah oui, j'ai vu passer ça.
Mais ça qu'est-ce que ça fait comme son? Ça fait blur.
Ouais. Vous l'avez déjà vu le spectacle?
Oui, j'ai vu le spectacle. Barbara Carlotti, vous avez prévu de nous jouer, de nous chanter un morceau a cappella pour ce remède à la mélancolie de Noël et vous avez choisi La tendresse de Bourville.
J'hésitais entre Tino Rossi, parce que Tino Rossi c'était notre chanteur de Noël quand on était petit, je pense pour quelques générations, il était là avec nous dans nos chemins.
Ben oui.
J'ai hésité, je me suis dit si je chante petit papa Noël, le Tinder aussi, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Donc après, je me suis dit, pensons à une île, pensons à la mer. Alors je me suis dit, je vais chanter peut-être « Aux Corses, île d'amour ». Et puis, je sais pas pourquoi, hier soir, tout à coup, j'ai pensé à Bourville et à la tendresse. Et je me suis dit que c'était une des plus belles chansons de naïve et simple et tendre. Et que je pense qu'il y a plein de gens qui ont besoin de ça en ce moment. Voilà, et donc je vais aller au micro.
Eh bien oui, je vous en prie. Et pendant que vous prenez place, Barbara Carlotti, comme c'est la première fois que j'anime une émission avec des lives, on m'a dit, attention, pendant les lives, il faut meubler. Alors je vous prie de m'aider autour de la table, vous pouvez dire ce que vous voulez, ce qui vous passe par la tête, c'est pour lui laisser...
Je crois que vous venez de le faire.
Moi, je joue pas d'instrument, donc j'ai pas besoin de temps pour me brancher.
Eh bien parfait, voilà, vous êtes en
donc,
place.
C'est une chanson qui a été écrite par Noël Roux et composée par Hubert Giraud, il faut le savoir. Ce n'est pas une chanson de Bourville. Et qui a été aussi chantée par Marie Laforêt. Donc je vais l'apprendre à n'importe quelle hauteur puisque je n'ai pas d'instrument. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre dans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, vraiment. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable broyé et déçu. Alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant vous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour. Règne l'amour jusqu'à la fin des jours. J'étais bizarrement émue quand j'ai eu un petit gloops dans la gorge.
C'était super beau le moment d'émotion.
Quand j'ai dit broyer dessus, oui. Ça marche vraiment.
Merci beaucoup Barbara Carlotti pour cette interprétation a cappella de la tendresse.
Et les mots étaient dans le bon sens ou pas?
Oui, les mots étaient dans le bon sens.
Oui, parce que je veux savoir si Thomas était intervenu.
Tu voulais intervenir?
Pas du
le
tout,
suspicieux Jean-Michel Ribes. Thomas de Pokery.
Dada, il a misé cette chanson aussi.
Ah bah peut-être qu'on aura le temps, peut-être.
Et je pense qu'elle
Jean-Michel Ribes.
Pas perdu l'ombre d'une émotion, même en la dadaïsant.
Oui, c'est sûr. On pourrait changer toutes les phrases, ça marcherait quand
c'est
même.
C'est une belle idée que vous avez eue.
Merci.
La bande originale du film de 1992 Simple Man de Hal Hartley, Fabrice Caro, vous avez choisi la scène de danse sur le morceau Cool Thing de Sonic Youth, scène dans laquelle on aperçoit Elina Lowenson. Est-ce que vous pouvez nous faire une ébauche de l'intrigue de ce film? De quoi s'agit-il?
Vous racontez un autre film,
si vous ne voulez pas.
On va parler de celui-là, mais j'ai un petit peu oublié le film. En fait, ce qui m'a marqué, surtout. Enfin, j'ai vu ce film quand j'étais à la fac, et je crois que c'est deux frères qui partent à la recherche de leur père, si je me souviens bien. Mais. Moi, j'avais découvert Hartley à l'époque de la fac, j'avais 20 ans. Mais ce qui m'a marqué, cette scène-là, Et c'est un truc que je me mets tous les matins, enfin tous les matins, j'exagère, mais quand j'ai du mal à démarrer, quand le café suffit pas, je mets ce truc, ça dure 2 minutes, et ça, c'est un shoot d'adrénaline en fait, c'est un truc, enfin tout, j'adore tout là-dedans, j'adore Sonic Youth, j'adore les acteurs, j'adore Al Hartley, et j'aime bien dans les films réalistes, enfin un film réaliste comme ça, narratif, naturaliste, d'un coup l'incursion de gens qui dansent. Je sais pas pourquoi, c'est un truc qui me fait triper. Des gens qui se mettent à danser au milieu d'un film.
Comme chez Tarantino. Ou...
Ouais, voilà, ouais, ouais. Ou chez.
Ou Minelli.
Ouais. Ou dans.
Demi.
Mais, enfin, sans contexte, sans qu'il y ait. Bah, comme dans Mauvais Sens, il y a l'Oscar Axe. D'un coup, Denis Lavant qui se met sur Modern Love, je crois, de Bowie. Et c'est le genre de truc qui me rend euphorique. L'incursion du surréalisme comme ça sur une trame réaliste. Ouais. Ça, c'est un truc, ouais, que j'adore, qui me rend euphorique. Je trouve que je déplore qu'il n'y ait pas ça dans la vie.
Oui, qu'on puisse pas se mettre à danser d'un coup.
Bah oui.
Là,
je sais
par
pas,
exemple.
Bah ouais, ou des fois, on était à la poste, il y a un tas de gens, comme ça, tout le monde fait la gueule. Et moi, c'est mon fantasme absolu de me dire de la musique qui se met à retentir, puis on se met tous à danser une chorégraphie très, très maladroite.
Sans que personne n'appelle la police.
Mais ça arrive très peu dans la vraie vie.
C'est vrai. Vous avez vu le film autour de la table, Jean-Michel Ribes, vous avez vu ce film?
Non, malheureusement, ça me donne envie, évidemment.
Oui, Thomas moi, Pourquerie. J'ai envie de le voir aussi, je l'ai pas vu.
Barbara Carlucci.
Moi, j'adore cette scène de danse
super,
aussi.
Hein.
Et en fait, Elina Lohansson, elle est magnétique dedans. Ah. Elle a une espèce de pull rose, ça. Et je sais pas, elle se déplace dans ce café. Effectivement, on comprend pas très bien ce qu'elle fait, quoi. Mais elle, tout d'un coup, je sais pas, elle a une énergie assez animale. Et en fait, elle vient. C'est un moment de suspension, quoi, comme ça. Mais qui est très rock, qui est très chargé, qui est très magnétique et qui est très beau.
C'est essentiel de pas comprendre.
Jean-Michel Ribes.
Parce que comprendre, ça réduit. Quand on comprend, bah, ça y est, on a compris. Quand quelqu'un me dit, j'ai très bien compris ce que tu as dit, je me dis, oh là là, ça doit être terriblement mauvais ou bas ou sans intérêt pour que tout le monde comprenne. C'est-à-dire que je pense que la compréhension et la définition, c'est la fin de la création, de l'invention de l'art, c'est de la fin tout d'un coup de la rupture, ce que vous disiez tout d'un coup. Si tout d'un coup tout le monde se met à danser dans la rue, on ne comprend pas et pourtant c'est la vie, c'est essentiel.
Ouais. Et ça manque un petit peu le non-sens.
Oui.
On fait toujours des choses qui ont du sens. Je trouve ça dommage.
Fabrice Caro.
Quand on cherche toujours à faire des choses qui ont du sens.
Oui.
Là, Jean-Michel Ribes et Fabrice Caro, vous me faites penser à Pseudo de Romain Gary, dans lequel il a une telle haine de soi dans ce livre qu'il adore les gens avec qui. Qui ne comprend pas et qui ne le comprennent pas non plus. Les gens qui parlent une autre langue, quand il n'y a jamais de compréhension, c'est les meilleures relations.
Je vous rassure, Fabrice et moi, on s'adore. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune haine de nous.
Parce que vous ne
comprenez
pas.
On est nos héros préférés. Non, je vous le dis tout de suite, parce que pas de confusion.
Pas de confusion. On se retrouve dans un instant, après un morceau composé en 1931 et enregistré en 1959 par une chanteuse à voix de velours dont je suis amoureuse. The Thrill Is Gone, Julie London.
I'm in your arms, and you are kissing me, but there seems to be something missing in your kissing. The love we knew is just a memory. It's turned into a comedy. The thrill is gone. The thrill is gone. I can see it in your eyes, I can hear it in your sighs, feel your touch and realize the thrill is gone. The nights are cold, for love is old. Love was grand when love was new, birds were singing, skies were blue. Now I don't appeal to you. The thrill is gone. This is the end. So why pretend and let it linger on? The thrill is gone.
cold, for love is old. Love was grand when love was new. Birds were singing, skies were blue. Now I don't appeal to you. The thrill is gone. This is the end. So why? The thrill is gone. The thrill is gone. The thrill is gone. The thrill is gone.
Remède à la mélancolie de Noël sur France Inter avec Thomas de Pourquerie, Barbara Carlotti, Jean-Michel Ribes et Fabrice Caro. Mettons-nous dans l'ambiance avec un chant de Noël qui donne foi en l'existence. Vous êtes bien sur France Inter et tous les chiens de l'univers vous saluent. J'ai pas pu résister, je viens de vous diffuser Jingle Bells. Barbara Carlotti. Non, c'est Fabrice Caro qui fait le chat.
Ah non, pas moi.
C'est Barbara Carlotti et Thomas de Fourquerie. Vous êtes bien sur France Inter. Là, on entend Jingle Bells par The Singing Dogs, un groupe vocal de chiens composé au Danemark dans les années 50 par un ornithologue qui faisait des enregistrements d'oiseaux. Et en fait, les chiens venaient toujours gâcher ces enregistrements. Puis il a eu l'idée d'isoler les aboiements. Et voilà, donc là, on entend Pearl, Pussy, Dolly King et César. Je trouve qu'il faut rendre hommage aux interprètes. Cette seule initiative justifie l'existence de Noël. Et là, je sens que c'est un flop, donc Jean-Michel Ribes, sauvez-nous de ce mauvais pas en nous lisant, si vous voulez bien, un texte d'Éluard que vous m'avez confié ne pas trop apprécier hors antenne.
Je vous ai confié le texte ou je vous ai confié ne pas trop l'apprécier?
Vous m'avez confié votre code bancaire.
Oui.
Vous pouvez le répéter?
Oui, bien sûr. Et moi, je m'appelle Jean-Michel Ribes, c'est normal que je vous confie mon code bancaire.
Alors, on a trouvé un texte qu'il écrit, c'est une lettre de Paul Éluard à son ami le poète Joël Bousquet, datée du 20 décembre 1928. Elle est assez savoureuse.
Le poète Joël Bousquet, hein. C'est important de préciser que c'est le poète Bousquet.
On peut dire Joël.
Oui, Joël. Oui.
Comme vous voulez. Oui.
Bon. Mon cher ami, déjà c'est drôle. Noël, je hais Noël, la pire des fêtes, celle qui veut faire croire aux hommes qu'il y a quelque chose de mieux sur la terre, toute la cochonnerie des divins enfants, des messes de suif, de stuc et de fumier, des congratulations réciproques, des embrassades d'époux à sang-froid sous le gui. Je hais les marchands de cochons et d'hosties, leur charcuterie, leur mine réjouie, la neige de ce jour-là est un mensonge, la musique des cloches est crasseuse, bonne au cou des vaches. Je hais toutes les fêtes parce qu'elles m'ont obligé à sourire sans conviction, rire comme un singe, à ne pas croire possible la joie constante de ce que j'aime. Le bonheur leur est une surprise. Voilà.
Il est pas mal ce texte.
Ah non, il est pas mal. Non, mais il y a une chose qui m'a beaucoup énervé chez Éluard. Non pas que Dali lui ait piqué sa femme, mais qu'il ait écrit « Liberté, 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 j'écris ton nom, j'écris ton nom ». Je trouve qu'il y a une chose dans ce texte qui est très un peu lourdingue. En plus, je veux dire, si on regarde bien la liberté, elle devrait être condamnée à la haie, parce qu'elle a fait tuer beaucoup plus de gens que bien des tyrans. Combien de gens sont morts pour la liberté ? Énormément. La liberté, quelque part, est un peu criminelle. J'essaye d'augmenter le regard ahuri que vous me portez quand je dis ça.
J'ai froncé les sourcils, oui, c'est vrai. Oui.
Non, mais évidemment, c'est une provoque. Mais quand même, il y a quelque chose dans... On oublie que la liberté a fait naître un sentiment héroïque chez Tajan et a fait tuer beaucoup, beaucoup de gens. Pourquoi ? Je ne sais pas.
Fabrice Caro, je vous vois hausser un seul sourcil. J'aimerais avoir votre avis sur ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce que ça vous évoque pour ou contre la liberté? Vous avez une...
Non, c'est pas ça que je dis.
Évidemment, je viens de biaiser la chose délibérément.
Est-ce que la liberté doit faire tuer tant de gens? Est-ce qu'elle n'est pas quelque chose de plus directement accessible? Voilà, c'est tout.
Oui, par un autre biais, bien sûr. C'était évidemment une plaisanterie, Jean-Michel Ribes. Fabrice Caro, vous en êtes bien sorti.
Oui, parce que pour au compte de la liberté, il faut, que je, faut non, vraiment que je réponde à ça.
Non, ouais. Mais vous aimez bien les surréalistes.
Oui. Et puis, ouais, moi, pour le coup, je trouvais ça assez rigolo comme texte. J'adhère à tout ce qu'il dit là. Ouais.
Mm-hmm. Bon, eh bien, bravo.
J'ai un plan en trois points qui va régler tout vos soucis.
Ouais, on est avec toi, Comacho.
Premièrement, on a le nouveau ministre pas sûr. Deuxièmement, il a un conscient intellectuel d'une autre planète, les gars. Ouais. Et troisièmement, il va régler tous nos soucis. Je vous donne ma parole en tant que président. Qu'il va régler le problème de l'aridité de nos sols. Grâce à lui, on va pouvoir relancer les récoltes.
Les récoltes, mais...
Et c'est pas fini. Je vous donne ma parole.
On entend l'un de vos sérums filmiques, Thomas de Pourquerie, la drôlatique comédie Idiocratie de Mike Judge, qui a écrit le scénario avec Ethan Cohen, une dystopie satirique de 2006. De quoi s'agit-il ?
Mais il s'agit d'une vision du futur dans laquelle nous arrivons à grands pas finalement, où les gens un peu intelligents ne se reproduisent pratiquement plus, et il y a que les abrutis qui se reproduisent en masse. Et lors d'une expérience de cryogénisation en l'an 2000 à peu près, deux personnes qui représentent la moyenne de l'humanité, donc un militaire vraiment qui est à l'accueil des vestiaires et une prostituée de Los Angeles, sont choisis par l'armée pour une expérience secrète afin d'être cryogénisés. Et l'expérience foire, les cercueils cryogénisés sont oubliés pendant 500 ans. Et ces deux personnes se retrouvent en l'an 2550 dans un monde où ils sont absolument des génies. L'humanité est devenue tellement conne. Et voilà.
Alors il y a par exemple les gens qui regardent la télévision ont des sièges avec des toilettes incorporées dans le siège pour ne pas avoir à bouger.
Exactement.
De la télévision.
Ouais.
Ils ne boivent plus d'eau. Ils ne boivent que du soda. Vous l'avez vu, Barbara Carlotti, ce film?
Je l'ai vu et cette vision du futur est en train d'arriver à grands pas.
Oui, c'est un
film
terrifiant.
Les gens ne se nourrissent que de junk food et ne font que de regarder des écrans. C'est ça un petit peu. Et donc le militaire qui arrive est hyper intelligent par rapport à cette masse.
C'est génial.
Et les types, donc ils arrosent les... Donc il y a un problème de sécheresse parce qu'ils arrosent les champs.
Parce que l'eau est interdite, oui.
Parce que l'eau, l'eau est interdite. Et ils arrosent les champs
avec du soda
et comprennent pas pourquoi les plantes ne poussent plus. Et donc
il faut pas dévoiler
la fin parce qu'il faut le regarder.
Mais
c'est assez hilarant et en même temps traumatisant.
Idiocratie avec un président des États-Unis qui s'appelle Dwayne Elizondo Mountain Dew Herbert Camacho. Fabrice Caro, vous avez vu ce film?
Non, j'ai pas vu.
Il est formidable. Jean-Michel Ribes.
Non, mais le fait qu'il y ait Ethan Cohen déjà, c'est garantie absolue, oui.
Ouais, c'est fabuleux. Et le président donc des États-Unis que vous venez de citer est donc un ancien acteur de film X dans le film.
Voilà. Ça, c'est...
Et un des humains les plus intelligents de la planète.
Ben ça, c'est, on y est puisque le très sympathique et nouveau président du Brésil, qui votre chanson sur la tendresse m'a tellement fait penser à lui, a choisi comme ministre de la culture un ancien acteur de films porno. Et je trouve que on n'est pas loin.
Ah
ben
ouais, on est tout près.
Je suis sûre que des acteurs pornographiques ont de belles âmes.
Ont
de belles âmes.
Non, mais bien sûr.
Certains.
Ah, bah, s'ils ont des âmes égales à leur sexe, elle est immense.
Bon, je tenais à vous dire pour cette émission de Noël.
Non, mais il y a des actrices de films X qui sont philosophes.
Mais bien sûr.
Et qui sont très intelligentes.
Et qui pourraient faire un gouvernement épatant.
Ça veut rien dire. Mais le président. Ils utilisent des caricatures pour.
Excusez-moi de revenir au film.
Ah non, je vous en prie.
Le président est quelqu'un de formidable dans le film.
Oui.
Voilà.
C'est celui qu'on entendait en version française absolument terrible. Je vous signale qu'on a perdu 14 points de QI dans le monde occidental depuis l'époque victorienne.
Je pensais que c'était beaucoup plus, moi.
Ah oui, Jean-Michel Ribes.
Oui,
oui, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Ouais. Peu, en fait.
Barbara Carlotti.
Ouais. Non, moi ça m'a... Ouais, non, finalement, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. Ouais. Je suis là pour donner des messages d'espoir, moi.
Oui, non, mais c'est bien sûr que c'est bien. Non, mais c'est quand on voit la reine Victoria et qu'on dit qu'elle a 14 points de QI de plus que nous, c'est vrai que c'est bien de les avoir perdus.
Je ne me prononcerai pas. Thomas de Pourquerie, vous allez à plusieurs reprises nous chanter de courtes chansons de Jean-Luc Le Ténia. Alors, avant votre premier live, est-ce que vous pourriez nous résumer le personnage qu'on peut qualifier de drôle de pistolet?
C'est, pour moi, c'est vraiment un des génies de la chanson oubliée, voilà, de notre patrimoine. C'est quelqu'un qui est mort en 2011, je crois. Il avait une trentaine d'années, il s'est suicidé. Il a écrit plus de 2000 chansons. Et c'est l'inspirateur de grands noms d'aujourd'hui comme Philippe Catherine, Les Vampas, voilà. Donc c'est quelqu'un qui écrivait des toutes petites chansons, des sortes de petits haïkus comme ça, des petits bonbons. Je vais essayer de vous en interpréter quelques-unes.
Avec plaisir, Thomas de Pourquerie, vous pouvez prendre place. Vous lui avez rendu hommage en juin 2017 au Théâtre de Verre avec d'autres artistes. Et Didier Vampas le qualifiait de meilleur chanteur français du monde, ce qui a donné le nom de l'album phare de Jean-Luc Le Ténia, le meilleur chanteur français du monde. Thomas de Pourquerie, on vous écoute.
C'est parce que je suis trop beau et trop intelligent que les filles ont peur de moi, que les filles ont peur de moi. Elles n'osent pas s'approcher, pourtant elles le voudraient. C'est parce que je suis trop beau et trop intelligent que les filles ont peur de moi, que les filles ont peur de moi. Bien sûr elles le voudraient, seulement elles n'osent pas. C'est parce que je suis trop beau et trop intelligent que les filles ont peur de moi, que les filles ont peur de moi, que les filles ont peur de moi. N'ayez pas peur, j'ouvre mes bras.
Merci beaucoup, Thomas de Pourquerie. Je vous laisse le temps de regagner la table pour nous dire le titre de ce morceau de Jean-Luc Le Ténia que vous venez d'interpréter.
Vous débrouillez très bien dans le live. Hein.
Ah oui?
C'est le moment où l'artiste va au micro Jean-Michel et revient.
Oui, c'est bien.
Il fallait
c'est
remplir. Super, vous nous avez demandé de le faire, mais je veux bien, mais vous ne nous laissez pas la place. Alors
ah non, mais je vais vous laisser la place, Jean-Michel Rey. Vous allez voir ce que c'est que d'avoir une pression de meubler les lives pendant les prochains lives. Mais je vous laisserai le faire. Le prochain live, vous vous en occupez. D'ailleurs, Jean-Michel Ribes...
Attendez, mais vous ne lui posez pas une question à
si,
Thomas?
Si, pardon.
Alors, non, mais je vous en prie.
Non, Thomas, excusez-moi, je suis un peu dépassée par les événements. Thomas de Pourquerie,
bonsoir, Eva
bonsoir comment allez-vous?
Ça va très très
que
bien.
Que faites-vous ici? C'est vraiment...
Je ne sais pas, je passais. Alors, non, cette chanson s'appelle « Trop beau ».
C'était charmant, merci beaucoup.
Merci.
Jean-Michel Ribes, l'une de vos activités anti-spin consiste à parler pour être à l'extérieur de soi. Y arrivez-vous réellement?
C'est moi qui ai dit ça?
Oui, c'est vous. Mais vous étiez quelqu'un d'autre, on va d'ailleurs en parler de
non,
ça.
Non, j'ai dit...
c'est bien.
Oui, mais c'est bien.
Thomas Pourquerie opine.
C'est vrai. Non, mais je dis ça, c'est pas inutile de parler à des gens, parce que pendant ce temps-là, ça permet de penser à autre chose. C'est souvent ça qui est vrai aussi. Mais moi, je suis assez pour être à l'extérieur de moi. C'est-à-dire qu'il y a peu de choses. Hein, qui... Par exemple, j'avais fait un livre de photographie. Et je m'étais aperçu que dans le monde entier, on n'est jamais à l'extérieur de soi, sauf dans quelques pays. Je veux dire, on va au Brésil, il y a une église portugaise, on se dit « Ah oui, da-da-da-da-da-da », on revient à notre petite civilisation, notre petite culture, etc. En Asie, non. En Asie, tout d'un coup, on s'oublie. Parce que toutes les civilisations, tout ce qu'on voit, c'est nouveau, c'est ce qu'il y a de mieux. Il faut sortir de soi, et surtout, on parlait tout à l'heure de sens. Ça enlève notre sens qu'on croit définitif, notre sérieux, qui est une espèce de cholestérol de l'imaginaire. Et tout d'un coup, là, ça ouvre les portes. C'est l'issue de secours. C'est vraiment génial de pouvoir sauter dans le vide et dans une autre planète. C'est ça, être à l'extérieur de soi. Et j'ai l'impression que dans cette émission, on commence à l'être.
On commence un peu à l'être, mais Jean-Michel Ribes, c'est un peu le contraire du travail psychanalytique que vous décrivez là, parce que par exemple, quand on est sur le divan, on parle et on est centré sur soi, on est nombriliste. La mélancolie, c'est quelque chose d'assez nombriliste finalement.
Oui, enfin, on peut dire aussi le contraire. La mélancolie, c'est aussi aller ailleurs, découvrir des zones d'ombre et de malheur qui sont inconnues et qui vous emportent dans un torrent de dépression qu'on ignorait. On va loin de soi, tout en étant nourri peut-être par ses propres malheurs. Mais je veux dire qu'on va loin de soi. Quant à la psychanalyse, je vous dirais, ça dépend vraiment du psychiatre ou du psychanalyste. Je veux dire qu'il y a des psychanalystes qu'on arrive à soigner quand on reste longtemps avec eux, et d'autres qui vous apprennent que la psychanalyse, au bout de 16 ans, ne sert pas à grand-chose.
Peut-être qu'il faut prendre un psychanalyste asiatique dans ce cas.
Exactement.
Mais oui.
Et surtout, et vous voyez, on disait, bah, moi je pense que faire une psychanalyse avec un type qui parle japonais, c'est ce qu'il y a de mieux.
On revient à cette chose d'incompréhension qui garantit l'entente entre les êtres.
Écoutez, franchement, moi j'ai fait une classe, pardonnez-moi, une seconde d'une activité que j'ai fait une masterclass à Pékin avec des acteurs chinois. J'avais deux traducteurs, à chaque fois qu'ils traduisaient, je ne comprenais rien. Mais quand j'étais avec eux, il y avait une truc qui se passait, ils étaient géniaux, ils étaient drôles, on se comprenait tout de suite, sans passer par la raison, le langage, le raisonnement qui tue un peu la pensée, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que, voilà, moi, c'est quand je dis qu'il ne faut pas comprendre, ce n'est pas qu'il ne faut pas communiquer. Au contraire, il faut communiquer encore plus sans passer par des espèces d'arcanes définitives de la raison. Je m'excuse auprès de gens que je viens d'endormir lentement en parlant de tout ça. Mais d'un autre côté, comme ça, ils passent un Noël tranquille, ils dorment.
Non, pas du tout, Jean-Michel Ribes. Fabrice Caro, comment est-ce que vous arrivez à vous extraire de vous-même d'abord? Y arrivez-vous? Est-ce que, comme Jean-Michel Ribes, c'est par la parole?
Moi, j'aime bien cette idée de perdre ses repères. Mmh. L'idée d'être perdu, moi, j'adore ça.
Tu connais le truc de la Bible, surtout ne demande pas ton chemin, tu risquerais de ne pas te perdre.
Oui, c'est ça. Moi, j'adore ça. J'ai aucun sens dans l'orientation. Partout où je vais, je me perds. Et j'adore cette sensation. Et j'essaie de retrouver ça dans tout ce que je fais, en fait. Essayer de, c'est ça, ne pas savoir à quoi se raccrocher. J'adore ça. Quand je suis en ville, en plus, j'ai un portable, mais je ne sais pas m'en servir. La fonction GPS, je ne sais pas m'en servir. Et du coup, j'ai des petits papiers que je perds et je demande aux gens où je suis. Mais j'adore cette sensation. C'est ça, c'est la perte de repères.
Ça permet de recommuniquer avec des gens.
Ouais, oui,
c'est
ça.
Parler avec des gens.
Et puis même dans l'art, j'aime bien pas avoir les codes, être qu'on me perd, ne pas avoir qu'on me tente pas des perches.
Avoir une expérience sensuelle,
ouais,
en fait.
Voilà, c'est ça. Bah, quand je regarde un...
Ouais, c'est ça, c'est vraiment. On souhaite depuis tellement longtemps que le ministère de la Culture s'appelle celui de l'émerveillement et que la espèce de loi de la culture obligée, du mariage forcé avec la Joconde s'arrête et que tout d'un coup on soit jeté vers des choses qui nous émerveillent sans qu'on nous dise ce qu'on doit aimer.
Oui. Barbara Carlotti, j'imagine que vous êtes d'accord puisque vous avez un univers onirique et puis vous êtes toujours vers l'ailleurs et vers justement la surprise et le fait de se surprendre soi aussi. Est-ce que vous arrivez à vous extraire de vous-même par la parole comme Jean-Michel Ribes?
Je ne sais. Non, je suis absolument d'accord avec cette idée de l'émerveillement et que c'est l'inconnu qui nous émerveille plutôt que le contraire, plutôt que le connu. Mais oui, il faut tout de suite monter ce nouveau ministère de la culture et en devenir les.
Oui, le ministère de l'émerveillement. Je conseille au passage de lire un livre absolument sublime d'un peintre que peut-être beaucoup de gens connaissent ou d'autres ne connaissent pas, qui s'appelle Jean Dubuffet. Ce qui a été un des centres de l'art brut et qui s'appelle Asphyxiante culture. Et c'est un livre où on voit qu'on est emprisonné dans les raies de décisions ancestrales de ce qui est beau et ce qui n'est pas beau et qu'on n'arrive plus vraiment à être émerveillé par autre chose que ce que l'on nous dicte. Et c'est vrai, Duchamp disait, et ça je trouve assez juste, l'œuvre est faite par celui qui la regarde, mais il ne faut pas qu'on nous l'enseigne.
Vous arrivez justement à, Jean-Michel Ribes, à vous surprendre vous-même, à aller vers des choses qui vous surprennent et qu'on ne vous a pas dictées, qu'on ne vous a pas mises devant.
J'essaye, vous savez, j'ai écrit une phrase définitive, pardon de me citer, j'ai dit quand j'écris, dès que le sens apparaît, j'arrête. C'est-à-dire qu'il faut que je sois toujours surpris par les personnages qui m'habitent et qui m'entraînent vers des choses que je ne connais pas. Je les suis. Si tout d'un coup je dis, c'est pas bien nanan, les mains, les pauvres, les riches, la pollution, le machin, prouf, ça retombe. Alors c'est vraiment... Mais je pense que la notion de création et d'artistique, c'est uniquement, comme on le disait tout à l'heure, de la rupture. C'est-à-dire que si tout d'un coup, là, en ce moment, vous vous mettiez à danser, ça ferait partie d'une surprise qui nous donne envie de vivre.
Alors je vais le faire. Je vais le faire pour les auditeurs. C'est un passage hautement radiophonique. Imaginez-moi danser merveilleusement bien. C'est absolument pas ce que je vais
danser,
faire.
Danser, ça suffit.
Danser. Dans un instant, nous partirons dans l'espace fantasmé de l'Or Grand Besançon, juste après un titre de la playlist Inter, Tata Fatigué de Vodou Game.
Ta terre, elle va, tu y es, travaille tous les jours.
Remède à la mélancolie de Noël sur France Inter avec Jean-Michel Ribes, Barbara Carlotti, Fabrice Caro et Thomas de Pourquerie. Mais il y a dans cette émission un être précieux qui prépare avec moi chaque épisode depuis des années. Il s'agit de la formidable Laure Grand-Besançon qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Laure.
Bonsoir Eva, bonsoir à tous.
Vous avez imaginé un voyage spatial en kit auquel les invités vont participer et qui nécessite que les auditeurs s'exercent à la visualisation. C'est ça ?
Exactement, visualisation, mais tranquille, quoi. On ferme les yeux ou pas ?
Bon, bah si, moi, je propose aux auditeurs, chers auditeurs, fermez les yeux et imaginez leur grand Besançon, c'est à vous.
Bientôt, on ne sait pas très bien quand encore, l'humanité s'adonnera à une nouvelle forme de débauche.
Le tourisme spatial.
Oui, mais quand ? Avons-nous 5 ans à perdre ? Avons-nous 10 ans à perdre ? Avons-nous 15 ans à perdre ? Je dis non. L'élévation spatiale, non Eva, non. L'élévation spatiale, c'est maintenant. Nous sommes le 24 décembre, dans l'onctuosité paisible de la nuit. Vous l'ignoriez sans doute, mais vous êtes sur le point d'effectuer votre première sortie exoplanétaire. Adios la Terre, ici Rumba, nous décollons en direction l'infini. Un vol spatial, c'est...
La danse d'un astronef entre les corps célestes.
Vous tous qui êtes ici, prière de chahuter votre pilote. Notre premier voyage spatial, vous le sentez, se déroule dans une absolue douceur. Notre vaisseau, je vous rassure, n'émet aucun gaz à effet de serre. Ici, pas d'engin propulseur, mais regardez, des flamants roses de Chine nous ont pris sur leur dos. Avec eux, nous nous élevons. Ensemble, nous cheminons bien au-delà de la porte du ciel. Nous flottons, nous rebondissons, nous passons devant la Lune. Elle est pâle, elle est blanche, elle est grandiose, elle est nue. Nous traversons le grand nuage de Magellan, partout ça clignote, les étoiles brillent à s'en faire péter la rétine lorsque... Incroyable! Les étoiles adorent écouter de la musique baroque! Ce soir, c'est banquet, elles se régalent de juteuses pommes d'amour et de poularde gracieusement rôties. Pas de bourrée, arabesque! Petit point à gauche, petit point à droite, elles dansent et... Fabrice, tendez la main, là, sur votre droite!
Un choco-saucisson.
Oui, Fabrice, un choco-saucisson, parce que dans l'espace, tous nos rêves les plus fous se réalisent. Dans l'espace, tout est permis. Et d'ailleurs, vous les voyez? Nous retrouvons tous ceux que nous avons aimés. Tout le monde va bien, ils ont changé de coupe de cheveux. Ils portent des souliers vernis. Ils parlent javanais, araméen. Ils se font des parties endiablées de ping-pong cosmique.
Mais hélas, pour nous, vient le moment de rentrer.
Eh oui, Jean-Michel. Tout doucement, nous redescendons sur la Terre. Calmement, nous nous posons. Ensemble, nous venons de vivre notre premier voyage spatial. Bon baiser, c'est promis. Bientôt, nous nous reverrons.
Merci beaucoup, Laure Grand-Besançon, pour ce voyage spatial en kit. Je profite du fait que vous soyez pour une fois en plateau, ça me fait très plaisir. Vous faites coucou à tous les invités qui vous répondent. Arrêtez Barbara Carlotti de la dévergonder.
Adios dans le cosmos.
Revenez sur Terre juste quelques secondes pour me dire, vous, qu'est-ce que ça vous évoque, Laure Grand-Besançon, les fêtes de Noël? Est-ce que ça vous donne le spleen?
Alors, ça dépend des âges de la vie. Parce que enfant,
vous avez 188 ans.
Guillaume, mais 188 ans, je veux dire que j'en ai connu de Noël. Non, mais en fait, vers l'âge de 20 ans, j'ai commencé un peu à avoir le spleen de Noël. Mais c'était pas le cas quand j'étais enfant.
Ah oui?
Ouais, c'est vers 20 ans. Et là, j'en sors, en fait, je pense.
Bah, bravo.
Ouais, petit à petit.
Ah, mais écoutez, c'est une bonne nouvelle, une progression.
Je nage dans le cosmos et du coup, je suis partie.
Oui, le cosmos, ça marche pas mal. Comme
ça marche à chaque fois.
Merci beaucoup, Laure Grand-Besançon. On a encore quelques minutes pour terminer cette première heure. Barbara Carlotti, j'aimerais beaucoup que vous nous lisiez un extrait du journal de Kafka. C'est un jour où il allait mal parce que quand je vais très mal, je prends le journal de Kafka, une page au hasard, et il va toujours plus mal que moi. Donc là, j'aimerais que vous nous lisiez le 25 novembre et le 30 novembre de l'année 1914.
25 novembre. Désespoir vide. Impossible de s'y installer. Je ne pourrai faire halte que lorsque je serai satisfait de mes souffrances. 30 novembre. Je ne puis pas continuer à écrire. Je suis arrivé à l'ultime frontière devant laquelle il me faudra peut-être attendre encore des années avant de commencer une nouvelle histoire qui, une fois de plus, restera inachevée. Cette destinée me poursuit et je suis une fois de plus froid et insensible. Il ne me reste que mon amour sénile pour le repos total. Et comme un animal absolument séparé des hommes, je recommence à balancer le cou et je voudrais bien, pour la période intermédiaire, essayer de ravoir F. Je vais du reste le tenter réellement, à moins que mon dégoût de moi-même ne m'en empêche.
Merci Barbara Carlotti pour cette lecture. Vraiment, vous avez pris le ton, vous avez été Franz Kafka pendant quelques minutes. Jean-Michel Rive, je vous vois...
Oui, non, je veux dire qu'il y a... Tout de suite après ça, il y a des films de Marx Brothers qu'il faut absolument se passer très vite. Et ça passe, ça va, on revit. Pardon. Vous savez que c'était Vialat qui disait que...
Alexandre Kafka, Vialat, merveilleux.
Ouais, merveilleux, qui a traduit, évidemment, qui disait que c'était un humoriste. Et on vient de s'en apercevoir.
On va continuer à prendre soin des spleens dans cette émission spéciale dans quelques minutes, juste après le journal.
Thank you.
Vous écoutez Remède à la mélancolie de Noël sur France Inter. Nous sommes avec Barbara Carlotti, Jean-Michel Ribes, Thomas de Pourquerie et Fabrice Caro.
Remède à la mélancolie. Eva Bester.
Il fallait se remettre dans le bain, je
ça
n'ai pas pu résister.
Un partenariat avec la
Barbara SPL. Carlotti. Oui, mais en fait, je connais quelques chiens, sont de ma connaissance vraiment personnelle, et je pistonne certains chiens amis, puisque vous savez, ce milieu est pourri jusqu'à la moelle. Et... vraiment. Il est l'heure de lire le texte d'un frère désespéré. Bon, ça fait pas si longtemps, mais Fabrice Caro, on évoquait tout à l'heure le chanteur, poète suicidé Jean-Luc Le Ténia. Avec vous, Thomas de Pourquerie, Fabrice Caro, vous avez apporté, vous, le texte d'un autre suicidé, extrêmement sensible et très drôle, le livre Auto Portrait de l'artiste et écrivain Édouard Levé, paru en 2005 chez POL. C'est plein d'humour, c'est doux amer, c'est plein de spleen aussi. C'est un texte dans lequel il écrit « Comme je suis drôle, on me croit heureux ». Comment êtes-vous tombé sur ce texte ?
Complètement par hasard, en fait. J'aime bien dans les librairies piquer comme ça. Et j'aimais l'objet. Enfin, c'est souvent par rapport à l'objet. Mmh. Et là, j'adorais l'objet. J'ai regardé ça. C'était la couve est super. Enfin, c'est un truc chez POL. Et je trouve qu'elle en dit beaucoup parce que c'est un autoportrait pointilliste, en fait. Voilà. Enfin, c'est pas très radiophonique ce que je fais, mais il y a son visage en petits points comme ça. Et souvent, j'ouvre les livres par rapport à l'objet. Et j'ai ouvert ça et ça a été le coup de foudre. C'est des petites phrases comme ça jetées. Et je trouve que ça dessine un autoportrait très, très précis. C'est des petites phrases comme ça sur ce qu'il est, ce qu'il n'est pas, ce qu'il aimerait faire, ce qu'il a jamais fait, ce qu'il voudrait faire. Et ouais, alors pour le coup, c'est pas forcément désespéré, même ça, je trouve ça plutôt drôle des fois, même
non,
parfois.
C'est très drôle, il est très drôle. Édouard Levé. Mais il y a des phrases comme ça peut être autant les brushings sont une inépuisable source de ricanement, même lorsque je suis seule. Je ne m'aime pas, je ne me déteste pas, j'aime les musées notamment parce qu'ils me fatiguent. Il a écrit ce livre dans une période de dépression, il était en voyage aux États-Unis, il était persuadé qu'il allait mourir là-bas, et il s'est dit, il faut absolument que je laisse une trace de moi...
Ouais, c'est marrant parce qu'on peut avoir deux lectures. Moi, quand je l'ai lu, je connaissais pas le gars, donc j'ai lu ça vraiment avec un regard très neutre. Et après, quand je me suis un petit peu intéressé à son histoire, que j'ai su qu'il s'était suicidé à 42 ans, on a une deuxième lecture. C'est pas tout à fait pareil, ça fait moins rire. Enfin, ça fait moins rire. En tout cas, c'est une autre lecture.
Jean-Michel Rive.
Le suicide chez l'humoriste, c'est comme le poinçon sur l'argent, ça prouve que c'est du vrai. Non, mais c'est vrai. Uh-huh. Les humoristes sont toujours considérés comme des gens inutiles ou c'est pas superficiels, qui pensent pas, etc. Et tout d'un coup, quand on s'aperçoit qu'il y a ça derrière, etc., tout d'un coup, on s'aperçoit en effet que c'est des voix essentielles.
Uh-huh. Oui. Que dire derrière ça ? Oui. Je suis d'accord.
Pardon. Mm-hmm.
Non, je vous en prie. D'ailleurs, Édouard Levé a fait un texte qui s'appelle Suicide sur le suicide d'un ami à lui, bien avant l'autoportrait.
Ouais. Et il s'est suicidé peu après. Enfin, je crois qu'il a remis le manuscrit à l'éditeur, puis il s'est suicidé 10 jours après.
Ouais. C'était vraiment une annonce. Ouais. Fabrice Caro, vous nous avez choisi un passage à nous lire.
Ouais, alors j'avais noté la page, puis j'ai perdu le papier dans le métro.
D'accord.
Je suis désolé, l'anecdote n'est pas très intéressante. Mais du coup, je vais...
il faut le dire aux auditeurs. D'accord. Ici, on est transparent.
Elle était super. Il faut imaginer que c'était un passage.
C'était vraiment
super.
Formidable.
Mais du coup, je vais lire la fin. Voilà, je me rabats sur la fin. Il n'y a pas de spoil, puisque
voilà,
on sait qui meurt. Voilà, c'est une petite phrase un petit peu en vrac, donc je peux partir de n'importe où. Les animaux dangereux ne m'effraient pas. J'ai vu la foudre. Je regrette qu'il n'y ait pas de toboggan pour adultes. J'ai lu plus de tome 1 que de tome 2. La date de naissance qu'indique ma carte d'identité est fausse. Je ne sais pas sur qui j'ai de l'influence. Je parle à mes objets lorsqu'ils sont tristes. Je ne sais pas pourquoi j'écris. Je préfère la ruine au monument. Je suis calme dans les retrouvailles. Je n'ai rien contre le réveillon. 15 ans est le milieu de ma vie, quelle que soit la date de ma mort. Je crois qu'il y a une vie après la vie, mais pas une mort après la mort. Je ne demande pas si on m'aime. Je ne pourrais dire qu'une fois sans mentir, je meurs. Le plus beau jour de ma vie est peut-être passé.
Vous sentez quand même, Fabrice Caro, et autour de la table, cette mélancolie poindre dans le texte d'Édouard Levé, malgré l'humour.
C'était pas malgré l'humour, c'est ce qui en fait l'humour. C'est-à-dire, c'est cette auto... autocritique quand même, c'est très fort, c'est ce qu'il y a de plus bouleversant, c'est ce qui est l'humour, c'est bouleversant parce que c'est, comme le disait tout à l'heure la chanson, c'est tendre, c'est insolent, ça dérange, et en même temps c'est totalement humain. D'ailleurs, je pense que humour et humanité, il y a quelque chose qui doit se mélanger. Les gens qui n'ont pas du tout d'humour, je me demande s'ils sont des humains, et je peux donner des noms.
C'est vrai?
Ouais.
Sûr. Vous avez beaucoup dénoncé ce soir, Jean-Michel, dans le gouvernement, dans le gouvernement
notamment.
Non,
je n'ai pas dénoncé dans le gouvernement. Il n'y a pas que dans le gouvernement.
Non, je vous crois. Je vous crois totalement. Mais d'ailleurs,
ça que j'aime chez vous, c'est que vous me croyez.
Ah oui, je suis très crédule. Surtout quand c'est une mauvaise nouvelle. Nietzsche a écrit de très beaux textes sur le rire, que je recommande aux auditeurs au passage. Barbara Carlotti, vous connaissiez cet artiste, Édouard Levé ?
Oui, d'autant que, d'ailleurs, tu as participé à ce spectacle.
Tomate Pourquerie ?
J'ai fait une voix pour Lucrèce Sacellagne.
Lucrèce a écrit, nous a demandé un certain nombre de compositeurs et d'auteurs-compositeurs à partir de autoportrait d'Édouard Levé d'écrire des chansons. Donc on a tous fait cet exercice. Elle a fait un spectacle génial sur Édouard Levé que je recommande. Je pense qu'elle va le rejouer. Et donc j'avais lu effectivement ce texte. Et moi, ce qui me paraissait ultra touchant, c'est que ça met de faire des listes en fait de ce qu'on est, de ce qu'on n'est pas, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. Ça permet de ça montre à quel point la vie est absurde en fait, et en même temps légère et drôle, et en même temps absolument dramatique.
Alors, je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire.
Et de notre inconsistance totale en fait à l'intérieur.
Mais
de
là, on a deux choix se supprimer ou danser comme des fous. Alors, je vous propose de se retrouver juste après un remueur de particules. SOS à la mort de Dario Moreno.
Amor,
donne,
moi,
tes lèvres,
por favor,
quand tu parles,
j'écoute,
et ta voix,
m'envoûte,
je rêve,
je soupire,
je désire,
ton sourire,
SOS, el amor,
si, señor.
Je t'adore, oui, yo te quiero, mi amor. Si, quelle ivresse que tes caresses, quelle ivresse. Si, tu m'affoles par tes paroles espagnoles. Si, buenas noches, mon amour, mi amor.
Si, señor.
On s'aime,
darling,
donne-moi,
tes lèvres,
exciting,
wow, ça,
quand tu parles,
j'écoute,
et ta voix,
m'envoûte,
je rêve,
je soupire,
ah,
je désire,
te séduire,
SOS.
El amor.
Yes, mi lord.
Je t'adore, oh yes, I love you, oh my darling. Si, tu t'expliques en britannique, c'est magique. Si, pour te plaire, je ne peux faire que me taire. Si, good night, darling, mi amor, mon trésor.
Si, señor.
Vous écoutez Remède à la mélancolie de Noël sur France Inter. Nous sommes avec Jean-Michel Ribe, Thomas de Pourquerie, Fabrice Caro et Barbara Carlotti. Barbara Carlotti, vous avez choisi de nous faire entendre un poème de l'anglais W.H. Auden paru dans les années 30. Dis-moi la vérité sur l'amour. Alors avant de nous le lire, pourquoi ce choix ?
Un peu comme disait Fab Caro tout à l'heure, je suis tombée par hasard dans une librairie sur ce petit recueil, tout petit. Et surtout, en fait, on a tous envie de savoir la vérité sur l'amour, il me semble. Donc je me suis dit, putain, génial, il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose là-dessus. Et j'ai découvert que Auden, en fait, c'était un très grand essayiste et poète anglais, un des plus importants du XXe siècle, qu'il avait aussi travaillé avec Stravinsky sur des livrets d'opéra. Enfin voilà, j'ai découvert tout d'un coup un homme absolument joyeux, génial, très mélancolique aussi. Et j'ai ouvert ça, et donc j'ai lu.
Mais pardon, Jean-Michel, vous dites qu'on trouve ça par hasard, mais j'ai remarqué qu'en dehors du choix de la couverture qui peut attirer, du nom, etc. C'est pas parce que c'est des petits livres et qu'on se dit c'est pas long à lire.
Ah, c'est possible aussi. Hein.
Fabrice Caro.
Un petit peu de ça aussi, peut-être.
Bon, voilà. Voilà
des, non, parce des que regardez celui-là aussi par hasard et Barbara il est beaucoup Carlotti. Plus gros.
C'est vrai, vous avez un livre gros comme une menace sur cette table, Barbara Carlotti. Mais d'abord,
ce livre est une menace en plus.
Oui, on va en parler, c'est Alain Pacadis.
Mais
tout
non,
à l'heure.
Je ne crois pas du tout. Moi, c'est plutôt tu passes dans les rayons et tu vois surtout ce qu'il y a écrit sur le livre. Pour moi, c'était ça l'important.
Qu'y a-t-il d'écrit sur
ça
le livre?
Ça aurait fait 600 pages, je l'aurais acheté.
Alors,
bravo.
Redites-nous le titre, Barbara Carlotti.
Dis-moi la vérité sur la bouche, Jean-Michel.
Dites-nous et dites-la nous, Barbara Carlotti.
Tous les livres qui portent ce titre, je les achète.
D'accord.
D'aucuns disent que l'amour est un petit garçon. D'autres disent que c'est un oiseau. D'aucuns disent qu'il fait tourner le monde. D'autres disent que c'est absurde. Et quand je demandais au voisin qui feignait de s'y entendre, sa femme se fâcha vraiment et dit qu'il ne faisait pas le poids. Ressemble-t-il à un pyjama ou au jambon dans un hôtel de la Ligue anti-alcoolique? Son odeur rappelle-t-elle les lamas ou une senteur rassurante? Est-il épineux au toucher comme une haie ou doux comme un édredon pelucheux? Est-il dur ou plutôt souple sur les bords? Oh, dis-moi la vérité sur l'amour. Nos livres d'histoire en parlent avec des petites notes ésotériques. C'est un sujet assez ordinaire sur les navires transatlantiques. J'ai vu la question traitée dans les récits de suicide et je l'ai même vu griffonner au dos des indicateurs de chemin de fer. Hurle-t-il comme un berger allemand affamé ou gronde-t-il comme une fanfare militaire? Peut-on l'imiter à la perfection sur une scie ou sur un Steinway? Chante-t-il sans frein dans les réceptions? N'apprécie-t-il que le classique? Cessera-t-il quand on veut la paix? Oh, dis-moi la vérité sur l'amour. J'ai regardé dans les maisons de vacances, il n'y était pas. J'essayais la Tamise à Maidenhead et l'air tonique de Brighton. Je ne sais pas ce que chantait le merle ou ce que disait la tulipe, mais il ne se trouvait ni dans le poulailler ni sous le lit. Peut-il faire des mimiques extraordinaires? Est-il souvent malade sur la balançoire? Passe-t-il tout son temps aux courses ou gratte-t-il des bouts de corde? A-t-il une opinion sur l'argent? Pense-t-il assez au patriotisme? Ses plaisanteries sont-elles assez vulgaires mais drôles? Oh, dis-moi la vérité sur l'amour. Quand il viendra, viendra-t-il sans avertissement au moment où je me gratterai le nez? Frappera-t-il à ma porte un beau matin ou me marchera-t-il sur les pieds dans l'autobus? Viendra-t-il comme le temps change? Son accueil sera-t-il aimable ou brutal? Bouleversera-t-il toute mon existence? Oh, dis-moi la vérité sur l'amour.
Merci beaucoup, Barbara Carlotti, pour cette lecture de « Dis-moi la vérité sur l'amour » de W.H. Auden. Thomas de Pourquerie, vous ne nous feriez pas un petit morceau de Jean-Luc Le Ténia, là?
Ok, je vais vous chanter.
Dites-nous le titre avant, comme
alors,
ça je vais pas m'en...
Je vais vous chanter Laurent Boyer.
Laurent Boyer.
Laurent Boyer. Et voilà, je vais avoir besoin de vous pour faire,
oui.
Les chœurs.
Mais alors, d'accord, mais alors Jean-Michel Ribes, regardez, il va prendre place. Vous devez meubler avant qu'il le s'installe.
Je vais meubler en disant que si je fais les chœurs, vous perdrez énormément d'auditeurs. Voilà, je meuble en disant ça, mais les gens sont prévenus.
Bravo.
Laurent Boyer. Laurent Boyer met du mascara. Ouh, ouh, ah. Laurent Boyer met du mascara. Laurent Boyer met du mascara. Et moi, Laurent Boyer met du mascara. Laurent Boyer met du mascara. Laurent Boyer met du mascara. Et moi, et moi je mange du tarama. Et moi je mange du tarama. Et moi je mange du tarama. Moi, Laurent Boyer met du mascara. Laurent Boyer met du mascara. Laurent Boyer met du mascara. Et moi je mange du tarama. Et moi je mange du tarama. Avec Eva.
Bravo Thomas de Pourquerie pour cette interprétation de Laurent Boyer par Jean-Luc Le Ténia. Jean-Michel Ribes, je me souviens que lorsque vous étiez venu dans Remède à la mélancolie, le tarama faisait partie de vos remèdes. Et ça, c'en est un aussi pour moi. C'est toujours le cas.
Mais c'est pour ça qu'il y a un avenir entre nous.
Bah oui, un avenir taramesque.
Est-ce que vous avez essayé le tarama avec des tomates fraîches?
Barbara Carlotti.
Non, mais le vrai tarama.
Je vous conseille, hein, le vrai tarama avec des tomates fraîches.
Vous savez ce que c'est le vrai tarama? Le vrai tarama, c'est juste des œufs. Comment?
Des œufs?
Oui, oui, des œufs.
De poissons?
Non, pas des poissons, non. Des œufs de. Quoi ça s'appelle? De mulet. Des œufs de mulet, du pain rassis, de l'eau et du citron, c'est tout. Et tout ça battu avec un truc, c'est tout. C'est ça le vrai tarama qui est exquis et non pas cette espèce de rose à joues qu'on essaie de vous vendre, non pas chez Sephora, mais même dans des...
masque, ça marche bien.
Et même dans des poissonneries.
Mais c'est gris, d'ailleurs, le vrai tarama est gris.
Le vrai tarama est gris et le vrai tarama, parce que le vrai tarama, c'est déjà bien, c'est gris, mais le vrai tarama est blanc.
Ah oui?
Oui. Wow. Vous êtes contente que je vous dise ça?
Ah oui, alors là, je me sens, je fais partie de l'élite des consommateurs de tarama.
Oui. Allez-y, vous verrez, je peux vous donner des adresses.
Eh ben, avec plaisir, Jean-Michel Ribes, je pense comme ça à l'un de vos conseils de Noël pour les auditeurs. Vous avez dit avant l'émission qu'ils évitent la dinde toujours sèche, tout comme l'est souvent la famille qui l'entoure. Pourquoi, selon vous, les tensions ressortent-elles toujours à Noël? Pourquoi? Quelle est cette malédiction à laquelle il semble que nous ne puissions échapper?
Bah, souvent, alors de deux choses l'une, où on voit tout le temps sa famille et c'est épuisant de la revoir une fois de plus à Noël, où on ne le voit jamais et l'image qu'on se fait d'elle souvent est détournée parce que tout d'un coup on s'aperçoit que l'oncle Albert qu'on croyait horticulteur
Sacré
dans
Albert. L'Inde
est un serial killer et tout d'un coup on se dit tiens, ça fait étrange et c'est un peu, c'est-à-dire que je trouve que le repas de Noël avec une famille un peu tendue, c'est à peu près le haut de l'Everest, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit où il y a le moins d'oxygène que dans cet endroit-là. C'est-à-dire que tout d'un coup, on étouffe, on peut plus respirer, on sait pas quoi dire. Et même la dinde, la pauvre, qui est là, est encore plus mauvaise que d'habitude.
Mais la dinde s'en va d'ailleurs souvent, à ce moment-là.
Vous dire, on l'a vomi?
Non, la dinde part, se lève, se rhabille et part.
Ah oui, ça je l'ai pas encore vu, mais ça serait bien.
Oui. Oui,
ça serait bien.
Oui. Autour de la table, tout à l'heure, vous évoquiez vos familles. Enfin, Fabrice Caro, vous disiez que ça dépendait. Puis vous évoquiez aussi plutôt vos enfants avec lesquels c'était plus sympathique. J'ai l'impression que Thomas de Pourquerie et Barbara Carlotti, vous avez plutôt des familles aimantes.
Mais c'est Noël... les pires. Attendez, excusez-moi, c'est les pires. Nous, on ne dit pas du
mais
tout.
Mais pas du tout. J'adore ma famille.
Mais moi, on ne dit pas que des familles aimantes. C'est pas parce qu'une famille est aimante qu'elle n'est pas épuisante.
Non, mais je vous rejoins tout à fait, Jean-Michel Ribes. Mais
encore
c'est vrai.
Une fois,
encore une fois. Encore une fois, le tarama et tout le reste. Mais. On est quand même mieux avec les gens qu'on choisit. On peut
bien
passer
sûr.
Noël aussi avec des amis. On peut passer Noël
ma
seul.
Ma famille choisit.
Moi, j'ai la chance d'avoir des
Thomas
parents
Pourquerie.
Divorcés. Et donc,
il y a deux Noëls.
Et voilà, il y a au moins deux Noëls. Et donc c'est très agréable. Et des cousins, des cousines un petit peu partout. Donc c'est vrai que ça change d'une année à l'autre et c'est assez agréable.
Vous voulez dire, vous avez des nouvelles cousines chaque année?
J'ai des nouvelles tantes et oncles.
Ah, qui apparaissent, ça c'est pas mal.
Exactement. Et puis comme
et
vous disiez
élevage,
tout à l'heure,
donc,
je fais un élevage d'amis. Voilà. mais on fait tous les ans aussi un Noël entre amis et ça c'est sympathique.
Donc
aussi,
vous fêtez plusieurs fois Noël, Thomas de Pourquerie.
Plusieurs fois, oui. Jusqu'au 31 décembre.
Un des supplices les plus grands dont plusieurs de mes amis, et en particulier mon équipe du Théâtre du Rond-Point, a subi les méfaits, c'était quand même le marché de Noël sur les Champs-Élysées. On a failli appeler Amnesty International plusieurs fois parce que c'était une torture. C'était une torture de bruit, d'immensité, de produits lamentablement mauvais, vendus des prix fous. Ça, c'est vraiment une honte. Et c'est bien qu'il n'y ait plus ce marché de Noël pour que Noël revienne sur les Champs-Élysées.
Avec du vrai tarama.
Voilà.
Tout est dit. La messe est dite.
Moi, je pense qu'on va avoir même du mal à finir l'émission si on a parlé du tarama. Je ne vois pas de quoi on peut parler d'autre.
On est allé au plus haut.
Oui.
On ne peut plus. On est écrasé par ce qu'on a soulevé.
Bon, redescendons, ça vaut peut-être le coup.
D'accord, en musique alors. I see the kids, they're running on by. And they're building the summer dress with the sunshine smile. And I hear the birds, they're whistling in the trees. It's like they know how I feel. Busy bee watching the world. Sit at the side of the curb. You're busy bee watching the world singing. Left my home and I flew east over North Sea.
just beginning, I'm breaking free. On the ninth street, with the sun on my back, yeah, yeah. Knock for Ruben, come kill some time on the hair and grab. Busy bee watching the world, sitting at the side of the curb. You're busy bee watching the world, singing, this is how it feels when a good day comes along. Get a glimpse. It's here for all of us. So come and warm your skin. Now on the ninth street, soon we'll be back on track. But knock, knock for Ruben. Come and kill some time on the hair and crack. Busy bee watching the world, seeing all the boys and the girls. You're busy bee, haven't you heard? Yeah. This is how it feels when a good thing comes along. This is how it feels when a good thing comes along. This is how it feels when a good thing comes along. Yeah, this is how it feels. This is how it feels. This is how it feels when a good thing comes along.
Good Day de Jonathan Jeremiah dans la playlist France Inter. Vous écoutez Remède à la mélancolie de Noël. Nous tentons de nous en éloigner avec Fabrice Caro, Barbara Carlotti, Thomas de Pourquerie et Jean-Michel Ribe. Barbara Carlotti et Thomas de Pourquerie se sont mis en place. Thomas de Pourquerie a saisi son saxophone. Barbara Carlotti est derrière un micro et ils vont nous faire une lecture musicale d'un extrait de la nouvelle Le professeur et la sirène de l'écrivain sicilien Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Barbara Carlotti, vous m'avez écrit juste avant l'émission que c'était un narrateur qui se remémorait lorsqu'il était étudiant la solitude d'un été studieux où il a rencontré une sirène. Un espoir pour les auditeurs, dites-vous. Dans la solitude, nous avons l'espace de rencontrer le merveilleux. Une histoire d'amour avec une sirène décrit avec tant de volupté et de drôlerie dans ce texte que je suis sûre que cela redonnera de l'espoir aux auditeurs. On vous écoute.
Je vais préciser que donc il vient juste, il a pris une barque un matin du 5 août à 6 heures et il a cru voir une adolescente s'accrocher à sa barque, mais elle a sauté dans ses bras, c'était une sirène. Voilà. On en est là du texte. Couché à la renverse, sa nuque reposant sur ses mains jointes, elle montrait avec une tranquille impudeur le délicat duvet de ses aisselles, des seins écartés, un ventre sans défaut. Il émanait d'elle ce que j'ai bien à tort appelé un parfum. L'arôme de la mer, la senteur d'une volupté infiniment juvénile. Nous étions dans l'ombre, mais à 20 mètres de nous, la mer s'abandonnait au soleil et frémissait de plaisir. Ma nudité presque totale cachait mal mon émotion. Elle parla et je fus envoûtée. Après le charme du sourire et du bouquet, par un nouveau et majeur sortilège, celui de la voix. C'était une voix un peu gutturale et voilée, où vibraient d'innombrables harmoniques. On apercevait en elle, au-delà des paroles, les ressacs paresseux de la mer en été. Les derniers chuchotis d'écume sur la plage, le passage des vents sur les reflets de la lune. Le chant des sirènes n'existe pas. La musique dont nul ne réchappe n'est autre que celle de leur voix. Elle parlait grec et j'avais bien du mal à la comprendre. Je t'entendais parler seule dans une langue proche de la mienne. Tu me plais, prends-moi. Je m'appelle Ligéa, je suis fille de Calliope. Ne crois pas aux fables qu'on raconte sur nous. Nous ne tuons personne, nous ne faisons qu'aimer. Penchée sur elle, je ramais, ne voyant que ses yeux rieurs. Nous atteignîmes le rivage. Je pris dans mes bras le corps aromatique et nous passâmes de l'éblouissement à l'ombre la plus dense. Déjà, elle m'instillait entre les lèvres cette volupté qui est à vos baisers terrestres ce que le vin est à l'eau croupie. Je me bornerai à dire qu'au cours de ces étreintes, je jouissais à la fois des plus hautes formes de volupté spirituelle et de ce plaisir élémentaire privé de toute résonance sociale que nos bergers solitaires perdus dans la montagne éprouvent lorsqu'ils s'unissent à leurs chèvres. Pendant ces journées, j'ai aimé autant, sinon plus, que 100 de vos donjons durant toute leur vie. Et quels amours! À l'abri des couvents et des crimes, de la rancune, de la trivialité, loin des prétentions du cœur et des faux soupirs, des fictives déliquescences qui salissent inévitablement vos misérables baisers.
Merci beaucoup, Barbara Carlotti et Thomas de Pourquerie qui l'accompagnait au saxophone. On vient d'entendre un extrait du Professeur et la sirène de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, qui est aussi l'auteur du Guépard, adapté au cinéma par Visconti avec Claudia Cardinale et Alain Delon. Thomas de Pourquerie, vous m'avez confié hors antenne que vous aimeriez bien nous jouer un morceau et nous le chanter de Jean-Luc Le Ténia qui s'appelle « Tout bouffi, est-ce vrai ?» Eh bien, je vous en prie, on vous écoute.
Je suis tout bouffi, tout tout doux, tout doux, trop glouton, tout tout doux, tout doux, tout bouffi, tout tout doux, tout doux, très gourmand, tout tout doux, tout doux, je mange, 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 je suis tout gonflé, tout tout doux, tout doux, boursouflé, tout tout doux, tout doux, du sein doux, tout tout doux, tout doux, boudiné, tout tout doux, tout doux, je mange, 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 je suis monstrueux, tout tout doux, tout doux, j'aime le gras, tout tout doux, tout doux, gros Elvis, tout tout doux, tout doux, cacahuète, tout tout doux, tout doux, je mange, 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 je vais exploser, tout tout doux, tout doux, éclaté, tout tout doux, tout doux, gros Elvis, tout tout doux, tout doux, le succès, tout tout doux, tout doux, je mange, 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 je mange.
Bravo Thomas de Pourquerie, encore un morceau merveilleux de Jean-Luc Le Ténia, tout bouffi. Et le temps que vous regagnez la table, Jean-Michel Ribes, dans votre ouvrage Les mots que j'aime et quelques autres, vous donnez cette définition du mot réalité, endroit où il ne fait pas bon vivre. Est-ce que vous êtes toujours en mauvais terme avec elle ?
Non, c'est elle qui est en mauvais terme avec moi. Moi, je serais prêt à accepter, mais c'est vrai que je suis un peu... Mon ami Roland Topor et moi-même, nous étions un petit peu allergiques à la réalité, c'est vrai. La réalité, c'est quelque chose de fabriqué par des gens qui ont quand même décidé qu'il fallait la regarder en face. Et comme le disait Skutner, il vaut mieux la regarder en farce. Et je sais pas, oui, on, bah non, tous les gens qui sont autour de cette table, et vous aussi... On essaye de la bousculer, sinon on s'assied sur un banc et on regarde passer les voitures et c'est tout.
Dans vos remèdes, Jean-Michel Ribes, il y a justement s'imaginer autre. Alors comment vous imaginez-vous quand vous êtes autre ?
C'est-à-dire que si je suis moi, ça s'arrête, donc je suis tout le temps autre. Cet autre, il arrive différemment toutes les secondes, je ne sais pas. Je n'imagine pas, je n'ai pas assez de regard sur moi pour m'imaginer, mais il se trouve que si je continue un peu à avancer, à respirer, c'est parce que probablement je suis un autre. D'ailleurs, Topor disait une phrase que j'aimais beaucoup, il disait « Dès qu'on parle, on est un autre ». Et ça, je trouve que c'est vrai.
Ça veut dire qu'on se trahit en permanence, en fait, l'identité n'existe pas.
Non, on se trahit pas. C'est pas du tout de la trahison, c'est tout d'un coup la possibilité, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, d'être extérieur de soi. Parce que soi, c'est pas forcément passionnant.
Jim Carrey disait
Thomas de Pourquerie
disait une très belle phrase dont je vais essayer de me souvenir. C'était j'ai d'abord cru que j'étais un mec qui expérimentait le monde et je me rends enfin compte que je suis l'univers qui expérimente un mec.
Non, Jim Carrey a quelques qualités et il a aussi quelques défauts. Il y a un documentaire extraordinaire sur le tournage du film de Milos Forman où il s'est vraiment pris pour le personnage du film Man on the Moon, qui est merveilleux d'ailleurs et que je recommande à tous les auditeurs.
Oui.
Jean-Michel Ribes.
Oui, j'avais écrit un petit truc sur l'insouciance aussi. C'est important d'être insouciant parce que pendant, oui, voilà, on est insouciant d'ailleurs quand on danse sur quand on danse dans vos émissions, quand on court sur la plage, quand on se baigne, quand on rit, quand on fait des poèmes aussi beaux que vous venez de lire. On oublie que au-dessus de nos têtes, dans les lignes polonaises aériennes, des gens viennent de découvrir leur plateau repas. Et c'est vrai que, heureusement qu'on oublie la réalité, parce que ce serait horrible.
Oui, ça, il a mort. Ouais. Et parfois, on
dort. J'adore les plateaux repas.
Non, bah, la question, on va faire le titre.
Non, pas dans les lignes polonaises, je vous assure. C'est, normalement, ça devrait être dénoncé dans les droits de l'homme. Enfin, je sais pas quoi, non.
...1984, Dress You Up de Madonna, ça c'est un de vos onguents musicaux, Fabrice Caro, et vous dites de préférence un peu ivre. Oui, assumez vos choix. Fabrice Caro vient de se retourner pour regarder si je m'adressais à quelqu'un derrière lui.
Non, je cherchais dans mes... Pour un truc anti-speed, je cherchais un morceau, une chanson, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus puissant qu'une chanson en fait. C'est un espèce de shoot d'adrénaline comme ça, il n'y a rien qui peut être aussi efficace. Et en faisant le tour un petit peu de mes chansons anti-spleen, je me suis aperçu que mes chansons à moi, anti-spleen, elles étaient hyper spleenesques, hyper tristes. Parce que moi, quand j'ai le spleen, j'ai tendance à m'accompagner, à m'autocomplaire. J'adore me regarder chialer. Enfin, voilà.
Est-ce que vous vous regardez littéralement, Fabrice Caro, dans le miroir en train de pleurer?
C'est arrivé, ouais, une espèce d'autocomplaisance, comme ça, pousser la tristesse jusqu'au bout. Il y a une espèce de jouissance là-dedans. C'est pathétique, en fait.
Je trouve très beau quand vous pleurez.
que faire de ces larmes, nager dedans?
Ouais, voilà. C'est une façon d'accompagner la tristesse jusqu'au bout pour la ressentir. Ouais, après, chacun a ses méthodes, mais je me voyais mal arriver en 24 au soir avec une chanson hyper triste. Je voulais pas être la cause d'une vague de suicide.
Non.
Alors du coup, j'ai pris le contre-pied et il se trouve que par hasard, je suis retombé sur, que j'assume à moitié là tout de suite, mais je suis retombé sur cette chanson de Madonna et je me suis souvenu à quel point j'adorais Madonna. C'est un truc que je peux dire à 45 ans, il y a prescription, que je pouvais pas dire à 15, sinon je me faisais. Et ouais, c'est une chanson qui me rend heureux. Ah oui, j'ai précisé un peu ivre. Ah oui, pourquoi j'ai mis ça? Oui, parce que c'est le genre de chanson qui, l'ivresse, ça décuple le pouvoir émotionnel d'une chanson.
Alors ne m'en voulez pas, mais j'ai acheté du shampoing mi pour cette émission. En tout cas, on écoute, pour que vous me pardonniez, un morceau de la playlist France Inter et on se retrouve vite pour le texte le plus sensuel de la langue française, Dixit Thomas de Pourquerie. Mais d'abord, Anderson .Paak et Kendrick Lamar, Tint.
Hey, you ain't got a flash when you're taking your picture. You ain't got to draw no extra attention. Paparazzi wanna shoot ya. Niggas dying for less out here. I've been in my bag anyway, trying to throw a bag in the safe. You can turn your in the base. Baby, I don't want some baby niggas. Niggas crying for less out here. Do what I gotta do, bruh. Get up in my rearview mirror. I can't be riding around that open strip. You probably think a nigga trolling.
Like,
or showing out for the cameras.
Right.
Fuck, I'm doing fish bowling.
So.
100,000 on the passenger. Bitch, I'm Kendrick Lamar. Respect me from afar. I was made in this image. You call me a god. Everybody in attendance. I'm about to perform. Everybody get offended by the shit I got on. Like, can you buy that nigga 900 horse? Can you drop that nigga a G5? Can you fly that nigga? I need 10 so I can look at the snakes and poses.
I need 10.
Cause bomb head is non-disclosure.
I need 10.
So I can live with a peace of mind without niggas taking a peace of mind. And peace be still and not do fine. So fuck a fix it ticket. You pull me over and might see one of your bitches.
Run around, around that open strip. I need tents.
Windows tents.
I need tents.
No windows tents.
I can be flying down that one tent.
With the baggage in my whip.
I need tents.
Windows tents.
I need tents.
No windows tents.
And it's no good for me. It's so good for them.
I need tents.
Windows tents.
I need tents.
No windows tents.
I've got way too much to lose, so
I need tents.
You know I like a presidential. Stretch it out, that's a limo. Pull it over, let me get behind ya. Where we going, they don't need to know. Ghost riding in the Phantom. Niggas never see me coming. She wanna hold me like a ransom. But the money keep me running. And all
in my whip.
I need tents.
Windows tinted.
I need tents.
My windows tinted.
And it's no good for me.
It's so good for them.
I need tents.
Windows tinted.
I need tents.
My windows tinted.
I've got way too much to lose.
So roll your window up real quick.
I need tents.
Windows
tinted.
I need tents.
My windows tinted.
À la mélancolie de Noël sur France Inter avec Jean-Michel Ribes, Barbara Carlotti, Fabrice Caro et Thomas de Pourquerie. Thomas de Pourquerie, vous nous avez promis le texte le plus sensuel de la langue française. Il date de 1977, il est signé Pierre Desproges, vous l'avez interprété aux Victoires du Jazz en 2013. C'est Ariel, c'est ça ?
Tout à fait.
On vous écoute.
Ariel de Clara Mylène, ses baudriers nickel et Montbrisson, en son tiède et doux bain d'algues parfumées. Molle en chaleur d'eau clipotillante, chevelure aquarelle charnelle, chevirée de pupilles à lèvres de fraises extase, murmurant ritournelles en rôles signolés, elle était clate follement divine. La brune esclavageonne émue qui l'éventait un peu de son parcheminet, contemplait éblouissée les blancs dos du mamelon de bleu nuit vénelé, les petons exquis de son carmin teinté, les fuselines aux mollets tendres, le vol canombril cloquait et la motelle fluorescente du sexy clitor. Perversa-t-il et frissonnitouche, Amiel sentit bientôt ce libideuil lourd à cils courbés tremblants que la madrille andalouse, mi-voilée presque à poiline, posée sur l'onde tiède ou vaguement aux vaguelettes, semblotait se mouvoir les chairs dorées à cuisses enfertes, à peine inaccessibles en si blanc au creux de laine exquise. Pour aviver l'exacerbie de l'étrangère, Amiel s'empara soudain du savonule ovoïdal et doux à l'eau, l'emprisonna de ferme allégresse entre ses deux manucules aigle doux, songules et cramoisies, et le patinageant en glissade de son col à son ventre s'entitilla les chancrenelles.
Il y a pericoloso branlette si
et à pédicolos aux branlettes, siroc à la sauvagine embrasée, qui se fondait d'amour accoucherie volcanique indomptable, et qui, s'engloutissant les deux mains à la fièvre sans prendre le temps de slipoter, bascula corps et âme dans l'éclaboussure satanique de ces deux bénies baignoires pleines d'un pur chatonnoyance et de faisceaux nichales prohibites et fulgurantes. Quand l'étincelle en nuage les eut vues lever, ces étonnantes esboviciennes se méprisèrent à peine et s'extrablottirent en longue pelotonie de morphée finissant jusqu'à plus tard que l'aube, sans rêve et sans malice. Quoique virgines et prudes, elles n'avaient naguère connu l'onanère qu'en solitude.
Bravo Thomas de Pourquerie pour cette interprétation du texte Ariel de Pierre Desproges, en effet très sensuel, qui moi m'a fait penser au grand combat d'Henri Michaud. Il l'emparouille et l'endosque contre terre, il le rague et le roupette jusqu'à son drale. Enfin, je vous laisse le découvrir si vous ne le connaissez pas, il se trouve aisément sur internet. On a encore un petit remède et puis après des messages de chacun des invités. Barbara Carlotti, vous avez choisi pour l'émission un texte faussement désespéré qui s'illumine au fur et à mesure. C'est un passage du journal d'un jeune homme chic d'Alain Pacadis, publié en 1978. Un texte qui vient d'être réédité aux éditions Héros Limite. Alors Alain Pacadis, pour le situer brièvement, c'était un dandy, une ancienne figure légendaire du palace, un chroniqueur à Libération qui est mort étouffé par son amant en 1986. Jean-Michel Rippe, c'est bien ça ?
Oui, on a cru qu'il l'avait tué comme un criminel, pas du tout, c'était un jeu érotique qui a mal tourné.
Barbara Carlotti, on vous écoute.
Alain Pacadis, bien avant 77, écrit déjà des chroniques dans ses carnets. Et il les a toutes rassemblées dans Journal d'un jeune homme chic. Donc ça commence bien avant 77. Hiver 73, une saison pour l'ennui. Plus personne ne parle de punk dans ce Paris qui a succombé à la mode rétro. Des nuits entières à écouter Berlin de Lou Reed et à imaginer des images sur ses mots noirs. Un visage doux, aussi doux, et les larmes de Caroline plus vacillantes que la flamme tremblante d'une chandelle. Plus métallique que le tranchant d'un rasoir. Assister à tous les concerts de pop musique pour tuer le temps qui ne veut pas mourir. Est-ce que l'amour existe encore ou n'était-ce qu'un rêve? Tristesse des mots, langueur des regards qui se cherchent sans jamais se trouver. J'arrête là parce que sinon on pourrait lire tout le livre.
Oui.
Et c'est,
on peut.
Je trouve, hyper
c'est
bien écrit. Et en fait, c'est toute la délicatesse d'un des plus grands punks, d'un des plus grands rock critiques du punk, c'est quand même...
Journal d'un jeune homme chic d'Alain Pacadis.
Pour ceux qui sont seuls ce soir, je pense que c'est la seule chose à faire, c'est ils vont rire, ils vont beaucoup rire et ils vont découvrir plein de choses sur David Bowie, Iggy Pop, Elie et Jacquenot, Lio et toutes les rockstars des années 80.
Et justement, c'est sur ça que j'aimerais qu'on termine cette émission. Je vous ai demandé à tous ce que vous diriez aux auditeurs qui sont seuls à Noël. Jean-Michel Rippe, vous leur conseillez de s'adorer. Alors, comment fait-on pour s'adorer ?
Faut s'adorer, adorez-vous, vous dites que vous êtes meilleur, et c'est pas difficile, vous regardez pour les femmes, vous regardez Monica Bellucci, Angela Merkel, ou je ne sais quel ministre de la justice actuellement, et vous voyez que vous êtes mieux, et vous voyez que ça vaut le coup. Pour les hommes, ni Alain Delon, ni Trump, ni Macron ne vous arrivent à la cheville. Dites-vous ça, et c'est vrai, vous êtes une des créatures les plus réussies de l'univers. Dites-le vous, et vous verrez que c'est vrai.
Merci Jean-Michel Rippe, wow. Fabrice Caro.
Alors moi, mon message, c'est réjouissez-vous, vous n'allez pas assister à l'échange de cadeaux ratés de Noël. Donc ça, c'est bien, vous avez vachement de chance.
Merci Fabrice Caro, Thomas de Pourquerie.
Moi, je dirais juste, voilà, profitez de je citerai encore une fois mon ami Thomas Simeka en disant « Le passé est mort, le futur n'existe pas encore, seul le présent est éternel ». Donc, rendez-vous ici.
Qui fait partie des Chiens de Navarre. Jean-Michel Rippe, très vite avant de donner la parole à Barbara Carlotti.
Le présent, c'est un présent. Le présent, c'est aussi un présent, ça veut dire un cadeau.
Oui, ça dépend.
En langue des oiseaux.
Oui, en langue des oiseaux, c'est vrai. Barbara Carlotti, vous avez le mot de la fin.
Je vais faire donc une sorte de contraction de tout ce qui s'est dit. Réjouissez-vous et offrez-vous à vous-même ce présent que vous attendez tous.
Merci beaucoup, Barbara Carlotti. Merci à tous. J'annonce les actualités et les promotions, car on a fait semblant d'être très généreux, évidemment, mais vous êtes tous venus pour vendre quelque chose. Fabrice Caro, votre planche dessinée Open Bar est à retrouver chaque semaine dans les Un Rock. Votre dernier roman s'appelle Le Discours, il est publié chez Gallimard. Vous avez sorti en octobre dernier, accompagné des dessins de James, l'intégrale d'Amour, Passion et Sex Diesel chez Fluide Glacial. Et jusqu'au 1er février 2019, les éditions Dupuis gardent au chaud votre album Walter Appleduck, volume 1, Stagiaire Cowboy. Vous signez le scénario et Fabrice R, les dessins. Jean-Michel Rippe, Caraïbes, on peut consulter la foisonnante programmation du Théâtre du Rond-Point sur son site internet. Quelques dates. Jusqu'au 29 décembre, le spectacle d'Agnès sur Stèle, avec ma bouche. Jusqu'au 30, Sombre Rivière, écrit et mise en scène par Lazare. Magnifique, sur les cendres en avant, écrit et mise en scène par Pierre Note et Aglaé, texte et mise en scène de Jean-Michel Rabeu. Jusqu'au 6 janvier, J'ai des doutes, texte de Raymond Devos interprété par François Morel. À signaler aussi votre livre « Cris écrits » paru en mai dernier aux éditions Actes Sud. Thomas de Pourquerie, vous serez en concert le mardi 5 février à 20h30, salle Nougaro à Toulouse, le 7 et 8 février, même heure au Triton au Lila, et le 5 avril à Gaillac. Votre dernier disque avec le sextet supersonique s'appelle Sons of Love, il est paru sur le label Bleu. Barbara Carlotti, votre dernier album Magnétique est publié par le label La Maison des Rêves. Vous serez en concert le 18 janvier à Portes-les-Valences, le 19 à Schiltigheim en Alsace, le 24 janvier à Bruxelles, le 25 janvier à Sotteville en Normandie et le 27 janvier à Reims. Merci à tous vraiment d'être venus ce
Merci
soir.
Merci à vous. Merci.
Chers auditeurs, les chansons, les remèdes sont sur le site de l'émission. J'espère que ce moment en notre compagnie fut un abri éphémère plaisant. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h en compagnie de la comédienne et metteur en scène Isabelle Nanty. Bientôt minuit, nous sommes sauvés, mais tous les magasins sont fermés. Heureusement, il y a les livres.